En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour, les plantes aromatiques sont un atout essentiel pour donner de la saveur à vos plats. Cependant, certaines d'entre elles sont à consommer avec précaution. La noix de muscade, par exemple, est mortelle lorsqu'elle n'est pas râpée et ingérée dans sa totalité. Consommée en grande quantité, à savoir 5 à 20 grammes, elle devient cancérigène et touche les cellules du foie. D'autres plantes contenant de l'estragol, cette fois-ci, que l'on trouve dans l'estragon, le basilic, l'anis ou encore le fenouil, peuvent également toucher le foie et induire des cancers. L'estragol est en effet un carcinogène génotoxique, comprenez, qui induit des altérations du gène. Mais comme à chaque fois, tout dépend de la dose ingérée. Philippe Verger, directeur de recherche à l'INRA, travaille sur les méthodologies d'analyse de risques alimentaires. Il s'est intéressé plus particulièrement à l'estragon. Au-delà de quelle dose cette plante devient-elle nuisible aux consommateurs? Qu'en est-il des doses autorisées dans l'industrie agroalimentaire? Ou encore, faut-il se méfier des huiles essentielles? Réponse en compagnie de Philippe Verger au cours d'une conférence qui s'est déroulée à l'Institut de France en octobre 2007 lors de la Semaine de la Science.
On commence par un petit clin d'œil. Évidemment, la toxicologie gastronomique, ça n'existe pas. C'est même d'ailleurs peut-être pas correct d'un point de vue sémantique, mais c'était juste un clin d'œil à la gastronomie moléculaire. Donc j'ai pris un exemple qui est l'estragon. Donc l'estragon, vous connaissez tous. Je vais essayer donc de vous donner quelques informations et essayer surtout de ne pas vous laisser en mémoire d'idées fausses. Alors, la première chose, c'est que l'estragon, c'est un ingrédient gastronomique depuis des années, et que c'est bon. Donc la question que j'ai hésité à poser à Hervé tout à l'heure avec ses feuilles et ses fleurs, c'est, d'accord, tu veux les utiliser, mais pourquoi tu veux les utiliser? Est-ce que ça a un intérêt particulier? Est-ce que ton géranium, tu veux l'utiliser parce que ça apporte une couleur? Est-ce que ça apporte une odeur? Quel est l'intérêt? Donc la réponse pour l'estragon est claire, on sait que c'est bon, on a tous déjà goûté et on sait que ça donne une saveur particulière au plat. L'estragon doit son odeur à l'estragol, comme le basilic par exemple, qui contient aussi de l'estragol. Donc l'estragol, c'est l'arôme, c'est la substance active, hein, l'arôme actif de l'estragon. Et donc on extrait l'estragol, on extrait en fait l'huile essentielle d'estragol, et il faut à peu près, le rendement est à peu près de 2 à 5 ou 2 à 8 pour 1000, c'est-à-dire qu'il faut à peu près une tonne d'estragon pour obtenir 2 à 5 litres d'huile essentielle. L'estragon est utilisé en tant que tel dans le poulet ou dans d'autres plats, comme le basilic est utilisé aussi dans d'autres plats. Mais l'estragol est aussi extrait et c'est un arôme autorisé dans la réglementation européenne. Il est donc extrait à partir de l'huile essentielle. Et plus exotique, je dirais, quoique, l'huile essentielle d'estragon est aussi utilisée en massage ou en goutte pour lutter contre le hoquet. Donc je suis allé voir les sites internet. Et il y a à peu près consensus de tous les sites internet que l'estragol en goutte, 2 gouttes dans le creux de la main, ça fait disparaître le hoquet. Alors, là, je vous présente une molécule qui est le 1-allyl-4-méthoxybenzène, dont vous voyez la formule. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, évidemment, le 1-allyl-4-méthoxybenzène, c'est l'estragol. C'est absolument clair que l'estragol est un carcinogène génotoxique. Il n'y a pas énormément de molécules qui sont dans ce cas-là, qui sont des molécules qu'en fait, quand vous donnez expérimentalement à un animal, ça induit des mutations, ça induit des altérations du gène. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement rare quand même, hein, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit en consommant les feuilles que vous avez vues ou des extraits de n'importe quelle plante qu'on a des substances qui sont aussi puissantes sur le plan toxique et sur le plan cancérogène. Sur le plan toxicologique, donc quand vous donnez de l'estragol à des rats ou à des souris, que ça soit in vitro ou que ça soit in vivo, ça induit des modifications de l'ADN dans les cellules de foie et ça provoque des hépatocarcinomes. Donc ça, c'est clair. Donc d'un côté, c'est clair que l'estragon, c'est un ingrédient gastronomique, et de l'autre côté, c'est clair que l'estragol, c'est une substance toxique. Le problème, et c'est tout le but de mon speech, c'est de parler de la dose. Donc, je vais parler de deux choses. D'une part, la dose et la saveur, et d'autre part, la dose et le poison. J'ai regardé mon livre de cuisine ce week-end, et dans le poulet à l'estragon, pour 4 personnes, on recommande 18 feuilles d'estragon. Donc 18 feuilles d'estragon, ça fait à peu près 4 feuilles par personne, et ça fait à peu près 5 mg d'estragon par personne. Quand vous regardez les arômes d'estragon qui sont actuellement autorisés dans les plats cuisinés, la dose maximale autorisée est de 45 mg par kilo de plat. D'accord ? Donc ça veut dire que quand vous consommez 150 ou 200 g de poulet à l'estragon industriel, vous pouvez consommer jusqu'à 5 g d'estragon. D'accord ? Donc d'un côté 5 mg, d'un autre côté 5 g. Là, j'ai besoin de l'aide des cuisiniers parce que soit la dose maximale d'arôme autorisée et demandée par l'industrie ne correspond à rien, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais utilisée, soit l'arôme du plat industriel est tout à fait caricatural de l'arôme du plat, il ne faut pas que je dise naturel, comment on dit, sauvage, le plat indigène. Ça, c'est la première chose sur laquelle je ne suis pas clair. Comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup sur l'interface entre l'évaluation de risque et la décision publique. Et là-dessus, on se bat depuis 10 ans, 15 ans sur les problèmes des arômes en disant on aimerait bien que les doses maximales d'arômes autorisées correspondent à des réels besoins. Et on a ça pour les colorants, c'est-à-dire un colorant, on sait quand on en met quelques milligrammes, on sait la couleur que ça donne. Et pour les arômes, c'est beaucoup plus dur d'obtenir quelque chose de solide. La question, si vous voulez, c'est que la règle dans la réglementation internationale, c'est que normalement, quand on ajoute un produit alimentaire, et ça rejoint ce que je disais à Hervé tout à l'heure, quand on ajoute dans un produit alimentaire quelque chose, que ça soit des vitamines, des minéraux, des arômes, des additifs, etc., ça sert à quelque chose. Que ce soit un colorant, un conservateur, les nitrates, ça sert à lutter contre la toxine botulinique, les arômes ou les colorants, ça sert à donner un meilleur aspect pour le consommateur, etc. Donc normalement, ça doit servir à quelque chose. Donc ma question est simple, elle n'est pas, on va y venir tout à l'heure, sur la dangerosité, les données, etc., et les aspects toxiques. Ma question est plus sur la nécessité technologique, et on a peu d'endroits où on peut justement discuter entre toxicologues et technologues pour voir est-ce qu'on pourrait travailler ensemble là-dessus et est-ce qu'on pourrait définir ce qui est un arôme, à quoi correspond un arôme et qu'est-ce que ça fait. Moi j'aimerais bien que si un jour tu faisais une séance dans lequel on essaye réellement les doses d'arômes, de certains arômes tels qu'ils sont autorisés, voir le goût que ça fait. Parce que moi, je voulais simplement savoir, est-ce que c'est bon. Mais là, autrement, ça correspond entre 3 et 5 000 feuilles. Les doses autorisées, en estragol, ça correspond entre 3 et 5 000 feuilles, puisque c'est 1000 fois plus. Hein. Alors, si vous voulez, je vais revenir après sur l'huile essentielle et la consommation d'huile essentielle en tant que telle. Ce que je voulais juste faire, et c'était un clin d'œil et un appel du pied un petit peu pour les cuisiniers, c'est-à-dire que ça, ce que je vous dis, c'est 45 mg par kilo, c'est une dose qui est autorisée. Alors, ça, c'est pour l'Europe, donc fait par le Conseil de l'Europe, validé par l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, après consultation d'un dossier complet. Alors justement, à ce propos-là, moi ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je me bats pour que l'industrie demande des chiffres qui soient des chiffres réalistes. Alors j'ai fait cette demande justement à un collègue scientifique de l'industrie qui travaille pour une très grosse boîte qui s'appelle Firmenich et qui m'a dit mais la question que vous me posez c'est un peu comme si vous demandiez aux gens de chez Mercedes à combien ils veulent qu'on limite la vitesse sur autoroute. Et il m'a dit si vous demandez ça aux gens de chez Mercedes, ils vont vous dire Mach 3. Juste au cas où. Donc, je pense qu'il ne faut pas leur demander. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour le soutenir, mais je pense que c'est pas à l'industrie qui produit des arômes qu'il faut demander quelle doit être la limite maximum, parce que forcément, ils vont nous donner une limite qui va être 1000 fois plus élevée. Forcément. Donc, il faut demander aux utilisateurs, que ça soit les utilisateurs industrie agroalimentaire ou que ça soit les utilisateurs, simplement les scientifiques capables de donner une réponse. Parce qu'autrement, prenez les parallèles avec tout ce qui existe. Si vous voulez fixer des normes sur en utilisant l'avis des producteurs, forcément, ça va être trop élevé. Alors après, est-ce que c'est dangereux? C'est autre chose et je vais y venir. Donc, toujours est-il que Là, c'était un peu ma conclusion sur cet aspect. Enfin, je vais revenir après la conclusion. Chaque fois que vous mettez une plante dans un aliment, chaque fois que vous mangez quelque chose, c'est pas anodin. Donc, je pense qu'on est tous convaincus de ça. Avant d'être fait, ça doit d'abord démontrer son utilité. Donc, je pense que c'est la première chose. Et je pense que du côté industriel, il y a un gain de crédibilité à avoir en donnant des notions qui soient réalistes. Encore une fois, je suis pas convaincu que ça soit le SNIA. Il y a personne de l'ANIA, je pense aujourd'hui, hein, des utilisateurs, c'est-à-dire des industries agroalimentaires. Je pense que c'est à eux de prendre ça en main, ou alors à nous, hein, c'est-à-dire que moi je serais tout à fait intéressé pour suivre sur un exemple comme ça, qu'est-ce que ça fait, combien il y a réellement d'estragol d'abord dans un vrai plat industriel à estragon, et puis quel goût ça a, et puis pourquoi pas faire goûter aux gens avec différentes doses, voir les doses qui sont préférés, et à la fin, voir ce qui reste dans l'assiette au moment de la consommation. Mais mille fois, il y a quelque chose qui cloche. Après, l'autre message, c'est l'histoire de la dose et le poison. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ça crée de manière indiscutable des lésions de l'ADN chez le rongeur. À quelle dose ça crée ces lésions? Donc, c'est à la dose de 2000, donc de 2 grammes par kilo de poids corporel sur des rongeurs. Et ça, c'est toujours le problème qu'on a à communiquer quand on parle d'évaluation de risque, d'expliquer qu'en fait on donne des doses croissantes à des animaux et qu'on regarde au moment où il se passe quelque chose. Là, dans l'expérience qui a été faite, je suis revenu à la publication originelle, donc en fait ils ont essayé 3 doses qui étaient 500, 1000 et 2000 mg par kilo. Le problème, c'est que à 2000 mg par kilo, ça crée des lésions de l'ADN et que ce mécanisme est appelé la génotoxicité. Et que ce mécanisme, dont on voit expérimentalement qu'il a un seuil, parce que quand vous augmentez les doses, vous avez un moment où il y a des lésions et avant il n'y en a pas, il est réputé sans seuil. Quand une molécule crée une lésion de l'ADN, ce phénomène est réputé sans seuil, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas un effet dose. Le fait que la molécule abîme le brin d'ADN, on considère que c'est juste une question d'affinité de la molécule et que c'est pas lié à la dose. C'est une énorme discussion qui dure depuis quelques dizaines d'années parmi les toxicologues pour savoir si la génotoxicité est un phénomène à seuil. Donc ça a occupé des dizaines de gens pendant des dizaines d'années et ça dure toujours. En gros, on n'est toujours pas d'accord, enfin les toxicologues sont pas arrivés à trouver un seuil, c'est-à-dire sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le fait qu'il y avait un seuil. Sur le plan mécanistique, on n'arrive pas à identifier pourquoi ce serait un seuil. Sur le plan mécanistique, si on imagine la molécule qui va agir sur l'ADN, alors peut-être que c'est un problème d'absorption, peut-être que c'est un problème de pénétration dans la cellule, etc. Alors, donc, ce seuil qui n'est pas un seuil, j'ai quand même calculé à quoi il correspondrait en termes d'estragon. Donc ça correspondrait à peu près à 100 kg d'estragon et à peu près à 200 g d'huile essentielle. Mais ceci dit, tu rencontreras des toxicologues qui te diront qu'on n'est pas tranquille. Hein, parce que justement, ce phénomène est réputé être pas à seuil. Mais c'est vrai que ce calcul d'ordre de grandeur est quand même toujours utile pour revenir un peu les pieds sur terre quand on part dans des discussions très théoriques. La conclusion, c'est ça quand même, c'est-à-dire que on mange quand même de l'estragon depuis des années, et donc vraisemblablement l'effet génotoxique est un effet à seuil, c'est-à-dire on peut pas imaginer que en consommant 5 mg d'estragon dans un poulet à l'estragon, on ait un cancer. Sinon, ça se verrait quand même. On n'a pas des instruments très puissants en France pour observer l'état de santé, mais quand même ça je pense qu'on arriverait à le voir. Voilà, et disons le problème surtout, c'est que ça a plutôt un effet contre-productif, c'est-à-dire que quand vous dites justement aux consommateurs que tout donne le cancer, du coup ça annule un peu l'intérêt justement de ces évaluations du risque. Donc c'est un exemple très caricatural, hein, l'estragon, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un exemple qui est clair sur le plan toxicologique et qui est clair aussi sur le plan de la composition des substances. Donc, les conclusions sur le plan toxicologique, c'est qu'effectivement, l'effet génotoxique est probablement un effet à seuil et que ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas capable de le démontrer. Et ça, c'est vrai pour absolument tous les extraits de plantes aromatiques. Le dernier point que je voulais avoir, c'est sur les huiles essentielles. Alors, le problème, c'est vraiment la vente par Internet et la vente par correspondance. C'est que si vous allez sur Internet, réellement, vous avez des flacons à vendre, c'est pas cher en plus, 3,80€, je crois, le flacon. C'est un peu l'exemple de la noix de muscade, hein. C'est carcinogène à 200 ml. Je dois dire que, personnellement, c'est assez effrayant quand on a ce type de produit, et c'est qu'un exemple, hein. Évidemment, c'est impossible actuellement, je pense, de faire un check de tous les extraits qu'on peut avoir sur Internet à destination justement du consommateur final. Mais là, c'est vraiment un problème et je pense que c'est vraiment les limites dans le cadre de l'exercice de l'alimentarité des plantes. Là, je pense qu'on touche vraiment les limites. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui sont extrêmement concentrés, hein, c'est-à-dire qui sont 1000 à 10 000 fois plus concentrés que le produit original et qu'on laisse au consommateur final sans absolument aucune information.
L'estragon, est-ce marginal ou au contraire, est-ce qu'on peut supposer que ça concerne un grand nombre de plantes mises à disposition ? Et une autre question, quand vous avez parlé de l'aspect des cancers, est-ce qu'il y a un type de cancer particulier qui est supposé lié à l'estragol notamment ?
Quand j'ai dit que c'était caricatural, c'est sur le plan toxicologique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de molécules pour lesquelles il y a débat d'experts sur la toxicité, donc on n'est pas d'accord, etc. Donc là, l'estragol, ça a été évalué au niveau européen, au niveau international. La génotoxicité, il n'y a aucun doute. Donc c'est là-dessus que je dis que c'est caricatural. Il y a beaucoup d'autres molécules pour lesquelles c'est moins net et moins clair. Sur le type de cancer, c'est le cancer du foie. Conclusion sur les aspects culinaires, alors bon, pas gastronomiques, mais culinaires. Effectivement, je pense que l'aromate peut être consommé sans modération, compte tenu de ce qu'on vient de dire. En ce qui concerne les arômes industriels, pour l'instant, tant qu'on ne sait pas si les doses demandées sont effectivement des doses réellement utilisées, effectivement, si les doses utilisées correspondent à 1000 fois les doses sauvages, je pense qu'il faut varier les arômes et varier les plats industriels. C'est tout un débat qu'on a actuellement sur le consommateur qui aime l'estragol, hein, c'est-à-dire qui va consommer 3 fois par semaine une barquette de poulet à l'estragon qui contiendrait 45 mg par kilo. Donc dans ce cas-là, ce consommateur-là aurait un problème. Donc ce consommateur-là, c'est un peu un consommateur bizarre, mais on a plein de consommateurs bizarres et on doit aussi protéger les consommateurs bizarres. Et sur le dernier point, hein, je pense que réellement, la consommation directe d'huile essentielle par le consommateur final est vraiment quelque chose à déconseiller. Pour l'estragol, encore une fois, je répète, c'est caricatural parce que l'effet toxique est très net et très bien établi. Mais de manière générale, arriver à des concentrations, à ingérer des concentrations qui sont de l'ordre de 1000 fois la concentration que vous mangeriez de manière normal ou sauvage, et pas très raisonnable pour des molécules pour lesquelles on n'a quand même pas beaucoup de données toxicologiques. Et en conclusion, si vous avez le hoquet, essayez plutôt de vous faire peur que de consommer de l'huile d'estragon.
Vous venez d'entendre Philippe Verger, directeur de recherche à l'INRA. Sa conférence portait sur l'estragon et autres plantes contenant de l'estragol, porteuses de maladies hépatiques en cas de consommation excessive. Comme vous avez pu l'entendre au cours de sa conférence, Philippe Verger demande ouvertement à ce que les industriels baissent le dosage de leurs produits cuisinés et incite les utilisateurs d'huiles essentielles à limiter leur consommation. Pour en savoir plus sur les méthodologies d'analyse alimentaire, le travail même de Philippe Verger, vous pouvez vous connecter au www.metarisque.inapg.inra.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Canal Académie.